Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Il y a un petit peu plus de 4 ans, se déclenchait une crise économique, une grave crise économique dont nous ne sommes pas encore sortis. On va tâcher aujourd'hui d'y voir un petit peu plus clair, non seulement sur les causes de la crise, mais aussi sur les façons dont on pourrait en sortir. Pour cela, j'ai invité Christian Vallanduc, qui est économiste et conseiller général au service d'études du ministère des Finances, ainsi que professeur à l'Université catholique de Louvain et à l'Université de Namur. Bonjour Christian Vallanduc.
Bonjour.
Alors Christian Vallanduc, cette crise, bon maintenant ça fait 4 ans, il y en avait déjà eu avant des crises, mais on pense quand même qu'elles avaient duré un petit peu moins longtemps. Est-ce qu'elle est bientôt finie? Est-ce qu'on va pouvoir redémarrer?
La question c'est si elle est bientôt finie, ça relève presque de Madame Soleil, en tout cas des prévisionnistes, et ils ont déjà annoncé quelquefois la sortie imminente et les pronostics ont été démentis, mais en fait... Il y a quand même de fortes chances qu'hélas qu'on n'en sorte pas trop vite. Parce que, bon, d'abord, les crises économiques qui viennent des crises financières, généralement, sont plus longues. Ça a déjà été constaté. Comme vous venez de le dire, ce n'est pas la première crise financière. Et on a constaté qu'effectivement, les sorties de crise sont plus lentes quand l'origine est financière.
Parce que les crises, finalement... On en parle depuis les années 70, ça fait 40 ans qu'on parle
oui,
de crise.
Oui, ça fait 40 ans qu'on parle de crise, mais il y a eu des bonnes années pendant ces 4 décennies-là. Il y a eu des cycles normaux, mais c'est vrai que depuis 40 ans, il y a un certain nombre de choses qui ont été fondamentalement modifiées par rapport à une époque qu'on a qualifiée d'âge d'or, parce qu'on parlait des Golden Sixties à une certaine époque. Mais bon, pendant ces 40 années-là, il n'y a pas eu que des crises, mais celle-ci est quand même particulière.
C'est vrai
qu'on l'a connue en 2009, un recul de l'économie qu'on n'en avait pas connu depuis les années 30, en fait. Donc, elle est vraiment particulière. Alors, tu avais dit qu'il y a quand même deux faits qui n'incitent pas à une vision optimiste sur la sortie de crise. C'est que, un, elle vient d'une crise financière, et que, deux, le choc a été très rude. Donc, on n'en avait plus connu un pareil depuis les années 30. Alors, bon, il y a aussi une série d'autres éléments qui compliquent encore la donne. Hélas, la première, c'est qu'en même temps, on mène des politiques d'austérité. C'est-à-dire que l'économie demanderait plutôt qu'on la soutienne, et en même temps, on mène des politiques d'austérité, dont beaucoup disent, à juste titre à mon avis, qu'elles risquent plutôt de faire durer la crise que d'accélérer la sortie.
On aura l'occasion d'y revenir.
Sans doute. Alors, autre point qui toujours plaît de mauvais côté, c'est que bon... On est dans une configuration dans la zone euro où on a une banque centrale européenne un peu particulière, qui a un statut un peu particulier et qui ne peut pas faire ce que font beaucoup d'autres banques centrales. Il y a un parallèle qui est assez intéressant à faire, c'est le cas des États-Unis en 1992. Donc Clinton est élu président, il suivait un Bush, donc il se retrouve devant un déficit budgétaire d'une certaine ampleur. Alors, il y a eu un espèce de deal avec le président de la banque centrale américaine, ils ont convenu, moi Bill Clinton, je... comprime le déficit budgétaire et donc je fais la politique d'austérité au niveau budgétaire, tandis que moi, président de la Banque centrale, j'utilise les outils de la politique monétaire pour relancer l'économie. Où les choses se compliquent chez nous, c'est que la Banque centrale européenne ne peut pas faire un certain nombre de choses que toutes les banques centrales du monde peuvent faire en termes de relance économique. Ils ne peuvent pas, par exemple, racheter la dette des États. Enfin, ils ne pouvaient pas, juridiquement, ils ne peuvent toujours pas, mais ils ont quand même décidé de le faire. Mm-hmm. Mais la crise a commencé en 2008, et c'est en juin 2012, au terme d'une nuit de négociation et d'un accord au forceps, qu'ils ont décidé à oublier un peu certaines lignes du traité de Maastricht. Mais pendant ce temps-là, il y a 4 ans qui se sont passés, et la situation... c'est détérioré.
Parce que la Banque centrale européenne est indépendante des États, c'est ça?
C'est pas parce qu'elle est indépendante, c'est parce que bon, il y a d'autres banques centrales qui sont indépendantes, mais c'est parce que dans son statut, on lui a, en plus, explicitement interdit de racheter des titres de la dette publique et donc de financer, finalement, les États en émettant de la monnaie. Ça, on lui a interdit spécifiquement dans son traité. Mais il y a d'autres banques centrales indépendantes qui peuvent faire ça. Alors que, à la Banque centrale européenne, on lui a explicitement interdit. Le dernier élément qui s'ajoute à cette liste longue, hélas, de facteurs qui n'incitent pas à croire à une sortie de crise optimiste, c'est qu'il y a, hélas, un espèce de cercle vicieux entre la situation financière des banques et la situation financière des États. Les États ont sauvé les banques, se sont endettés, sont devenus fragiles, mais les titres d'emprunt qu'ils ont émis pour sauver les banques, finalement, se retrouvent dans le portefeuille des banques. c'est-à-dire qu'elles détiennent des titres d'État jugés fragiles, ce qui fait qu'elles sont elles-mêmes jugées fragiles, et que donc elles doivent être recapitalisées, et qu'il y a un certain risque que les États volent de nouveau à leur secours. Mais s'ils volent de nouveau à leur secours, ce carrousel fait un tour supplémentaire. Ça va les rendre de nouveau plus fragiles, ils vont y mettre des titres que les banques vont détenir, etc. Il y a une espèce de fragilité comme ça qui se construit en cercle vicieux. Bon, les Européens se sont quand même mis d'accord en juin pour trouver une voie de sortie, mais bon, les pays les mieux en forme de la zone euro, ce qu'on appelle maintenant le fameux club des triple A, l'Allemagne, l'Autriche et la Finlande, freinent des deux pieds.
Oui, il y a des chiffres qui sont sortis récemment sur l'Allemagne, où on dit qu'à Berlin, il y a un enfant sur trois qui vit dans la pauvreté. Donc même les pays qui semblent bien s'en sortir, finalement, en souffrent quand même, en tout cas au niveau de leurs citoyens. Est-ce que finalement cette crise, c'est la preuve qui manquait pour montrer que le capitalisme financier tel qu'on le connaît n'était pas une bonne idée ?
Mais c'est la preuve en tout cas qu'il y a une hypertrophie de la sphère financière par rapport à l'économie réelle. On est arrivé à un point où la sphère financière tourne sur elle-même et gonfle. Alors bon, pour dire les choses un peu cyniquement, tant qu'elle gonfle et qu'elle fait des bénéfices quelque part, retourne un jour dans l'économie réelle, ne fût-ce que parce que ça fait quand même des revenus d'un certain nombre de personnes. Enfin, pas vous et moi, mais macroéconomiquement, ça retourne quand même quelque part dans le revenu de la nation. Si ce n'était que ça, le problème ne serait pas encore trop grave, simplement pour la stabilité de l'économie mondiale. En termes de répartition des richesses, là, il y a un problème. Mais où l'affaire s'est corsée, c'est que bon, ces activités financières qui ont généré la bulle, quoi, en fait, c'était des activités qui étaient loin d'être sans risque. Et on a gonflé la bulle en s'endettant, et puis un jour après, il s'est passé ce qui se passe quand nous jouons vers des bulles de savon.
Ça pète.
Voilà, effectivement, à un moment donné. Mais la différence, c'est qu'une bulle de savon, ça fait rire, effectivement. Mais là, ça n'a pas fait rire beaucoup de monde, parce que bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les États qui ont dû assumer les pertes, et qui les assument encore, et qui...
Et les États, finalement, ce sont les contribuables.
Et les États, ce sont les contribuables. Alors, en fait, bon, plus fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est que bon, il y a eu une vague de dérégulation financière très forte pendant les deux dernières décennies, et les marchés financiers, on les a laissés aller tourner sur eux-mêmes, en croyant qu'ils étaient efficients, mais ça relève un peu de l'acte de foi, si je puis dire, et celui-là n'était pas vrai. Alors, toute la question, c'est que je ne suis pas sûr que tout le monde soit passé au stade de l'acte de contrition, si je peux rester dans le vocabulaire d'une certaine époque. Parce que, bon, la réponse à ça, c'est qu'il faut admettre que les marchés financiers ne sont pas efficients. Il y a des économistes qui l'ont toujours dit pendant les deux décennies. On les a considérés un peu comme l'arrière-garde, disons, d'un mouvement de pensée qui était de notre époque, mais finalement, ils avaient
raison.
Les marchés financiers, on peut expliquer, et on l'explique dans des cours d'économie d'ailleurs, que les marchés financiers ne sont pas intrinsèquement efficients, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être régulés. Or, on a fait le contraire.
Le politique a perdu finalement son pouvoir sur l'économie. Quoi.
Est-ce qu'il a perdu ou est-ce qu'il l'a abandonné sous la pression des lobbies des financiers? Il y a une quinzaine de jours, j'étais à un séminaire sur la taxation du secteur financier ici à Bruxelles, organisé entre autres par le Fonds monétaire international, et un représentant du milieu d'affaires qui a dit « mais ce ne sont pas les banques qui ont créé la crise, c'est les États qui ont mis ce sont les États qui ont permis la dérégulation, qui ont créé la crise ». Je n'ose pas croire qu'il était naïf, parce que tout le monde sait très bien que les États n'ont pas décidé ça eux-mêmes, tout seuls, ils ont décidé sous la pression du lobby du secteur financier. Alors je crois que si on veut remettre la sphère financière à sa place, c'est-à-dire au service de l'économie réelle, il faut re-réguler les marchés financiers. C'est un des gros débats actuellement au niveau européen et au niveau mondial.
Voilà, c'est donc une des premières solutions qu'on va détailler tout à l'heure, développer tout à l'heure, après notre première pause musicale, bien de circonstance, puisque nous avons choisi pour un flirt avec la crise de Trio.
Populace, cerise, on est lourd de cerne, mais la foule se glisse dans un couloir de métro. Ouh, 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 ou Les yeux rivés sur l'aiguille, regardez passer le temps qui se faufile comme une anguille et ne cesse de te mettre dans le vent. Yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah.
Tu finiras cuée
chemise
dans ton flirt avec la grisée. Tu finiras cuée
chemise
dans ton flirt avec la grisée. Crever le dos courbé par ton horaire, tu ne sais plus quoi faire pour te distraire.
Grincement du métro, le train est à l'approche et c'est le mouvement de foule qui te noie comme de la houle. Tu cours sans y penser, le temps décompté, chaque minute de gagner comme un chèque bien encaissé. Yeah, yeah.
Tu finiras par lâcher prise
dans ton flirt avec la grisée.
Tu finiras par lâcher prise,
par lâcher prise
dans ton flirt avec la grisée.
Yeah, man, yeah, man, yeah, man, yeah.
Envoler d'un courant d'air, écraser la gueule par terre. On est toujours à bout de souffle,
à bout de nerfs. Dans sa multinationale blindée, mondialisée, l'homme actif de tendres années, c'est le technocrate de son métier qui a écrasé ses millions de partenaires, qui a écrasé nos vendeurs de réverbères, qui fait du gringard sa secrétaire retient pendant la prière,
qui pratiquera son art de la maîtrise,
de la maîtrise.
Comment profiter de la crise,
de la crise.
Comment profiter des petites entreprises,
des entreprises
et de son flirt avec la crise. Yeah, man, yeah,
oh man, yeah, man, yeah.
Elle est plus forte que toi,
la crise,
la 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 la.
Elle est plus forte que toi,
la crise,
la 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 la.
Elle est plus forte que toi,
la crise,
la 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 la.
Elle est plus forte que toi, la crise.
Voilà, trio et pour un flirt avec la crise. Christian Vallanduc, donc je rappelle, vous êtes économiste et nous parlons de cette fameuse crise qui nous touche depuis 4 ans. On disait que l'État avait une certaine responsabilité dans cette crise, mitigée par le fait que c'est sous la force des lobbies financiers qu'il a un petit peu à peu cédé son pouvoir au monde économique et financier. Mais il y a d'autres responsabilités de l'État qui sont plus qui datent des années précédentes.
Disons que bon, il y a le volet financier de la crise. Bon, ça, effectivement, les États ont été complices de la dérégulation. Il y a le volet économique et il y a le volet budgétaire. Bon, sur le volet budgétaire, quand même, ça va que la cigale avait chanté tout l'été. C'est-à-dire que pendant la première décennie de ce siècle, on aurait franchement pu mieux profiter des bonnes années en termes économiques pour rééquilibrer les comptes.
Mais on se souvient, au début des années 2000, 2001, 2002, 2003, ça se passait pas trop mal chez nous, il me semble.
Ben, disons qu'on est arrivé à l'équilibre budgétaire, ce qui pour la Belgique était un événement un peu comme si on gagnait le mondial de football. Quoi. bon. Et alors après, je crois qu'on s'est un peu reposé sur ses lauriers. Et il y a eu une espèce de politique de donnant-donnant pendant deux législatures qui était un peu, tu ne dis rien sur mes baisses d'impôts, et moi je ne dis rien sur tes hausses de dépenses sociales. Mais ça, c'est le gaufrier. Et la facture du gaufrier, c'est pour les générations suivantes. Il ne faut pas oublier qu'on a, en tout état de cause, un choc démographique à financer dans pas très longtemps. C'est-à-dire qu'on aurait pu se désendetter plus vite. Et alors, cette crise s'est ramenée sur une situation budgétaire qui n'était pas fondamentalement saine. C'est-à-dire que les États, et donc nos gouvernants que nous avons élus, ne sont pas même pas exonérés de toute responsabilité, si je puis dire.
Et donc, voilà, maintenant, cette crise est subie de façon peut-être plus dure qu'elle n'aurait pu l'être, et on impose l'austérité. Alors l'austérité, on se souvient qu'on parlait de rigueur avant de parler d'austérité, finalement on a dû bien prononcer le mot, la Belgique est en récession depuis février si je ne me trompe. Est-ce que c'est vraiment l'unique solution? Bon, on voit en Grèce, ça a des résultats assez catastrophiques. Est-ce que c'est vraiment l'unique chose qu'on puisse faire?
D'abord, avant d'entrer avant de répondre directement à la question pour comprendre la situation actuelle, je vais faire un petit détour par la langue allemande. Ça va qu'en allemand, dette et péché se traduisent par le même mot. Schuldig, c'est celui qui a péché, celui qui est coupable, et c'est celui qui est endetté. Et quand on se rappelle ça, on commence à comprendre beaucoup de choses.
En économie.
Dans le mode de pensée allemand, celui qui est endetté doit réparer son péché. Il y a eu une quinzaine de jours un article dans Le Monde qui rappelait ça pour ceux qui avaient oublié l'allemand, qui rappelait ça de manière très bonne, je trouve. Bon, alors, ça c'est un peu, c'est une espèce d'ombre qui plane sur le débat européen. Alors bon, vous citez la Grèce, bon, la Belgique c'est pas la Grèce, heureusement. Bon, la Grèce, le problème est beaucoup plus complexe. Un, la Grèce a triché.
Oui.
Deux fois. Ils sont rentrés dans la zone euro avec des comptes truqués. Et de nouveau, avant la crise, enfin, en 2007-2008, on s'est aperçu de nouveau que les comptes étaient truqués. N'importe qui d'entre nous a peine à croire la sincérité de quelqu'un qui a triché deux fois.
Oui.
Et la Grèce est dans cette situation-là. Bon, ceci dit, c'est évident que les plans d'austérité sans fin ne sont pas un avenir pour la Grèce. À un moment donné, il faudra passer l'éponge. En fait, la Grèce me fait un peu penser à l'histoire de la femme adultère, que tout le monde veut condamner, tout le monde est prêt à lui balancer des pierres, puis à la célèbre phrase, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, personne n'en jette. Mais ce que j'ai surtout en tête, c'est la dernière phrase du récit, c'est « Va, relève-toi et ne pêche plus ». C'est-à-dire, je crois que notre attitude à nous de citoyens chrétiens engagés à l'égard d'un débat comme la Grèce, c'est un peu de donner une vie à cette phrase-là, de permettre à la Grèce et fondamentalement au peuple grec de se relever, mais aussi de lui dire, ok, d'accord, on veut bien passer l'éponge, on veut bien faire un geste de solidarité entre les peuples européens, mais il y a un certain nombre de changements fondamentaux qui doivent se faire. Un, on ne triche plus. Deux, on perçoit les impôts correctement. Trois, on arrête la fraude sociale. 4, la corruption c'est fini, etc. On ne peut pas faire un geste de solidarité qui consisterait à mettre de l'eau dans un tonneau sans fond. Il faut que la Grèce, d'un certain côté, remette de l'ordre dans sa maison. Et à ce moment-là, je crois qu'on peut faire un deal correct.
Et ça, elle ne l'a pas encore fait, remettre de l'ordre.
Semble que non, en tout
pas
cas.
Encore, non.
D'après les échos que je vois, la remise en ordre peine. Disons qu'il y a des habitudes qui sont ancrées dans la mentalité grecque qui, hélas, retardent, me semble-t-il, la mise en ordre. Bon, je ne suis jamais allé en Grèce depuis le début de la crise, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais bon, ça n'a pas l'air simple de remettre la maison en ordre. Bon, ça c'est la Grèce. La Belgique, c'est tout à fait autre chose. On est dans une situation budgétaire, disons, tangente. On est à la porte de la spirale de l'endettement, ce que l'économiste appelle l'effet boule de neige, et suffirait que la récession se prolonge et ou que les taux d'intérêt remontent pour qu'on bascule du mauvais côté. Bon, de l'autre côté, si ça redémarre relativement vite et si les taux d'intérêt ne montent pas, on ne franchira pas la ligne, mais on est vraiment
sur le fil.
À la limite, c'est-à-dire que, mais on ne peut pas se permettre de rester sur le fil avec un choc démographique qui arrive. Il faut faire quelque chose. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut sortir le bazooka de l'austérité.
Ok, on y revient après notre deuxième pause musicale. Cette fois-ci, on va écouter Gilbert Lafaye. Truc et ficelle, ça parle du système financier. Écoutez bien.
Truc et ficelle, troc et combine. De Neuchâtel aux Philippines, fut en flanelle sur Moleskine, de grand hôtel en limousine, polichinelle voyage en Chine, t'as du nickel, j'ai des usines, t'as du platine mais pas de bretelles, ton archipel pour ma turbine, tu pousses ton fou, je te prends ton roi, ah. Toi t'as Cuba, moi ton Bouctou, tu prends le Pérou, moi l'Angola, truc et ficelle, troc et combine, d'Aix-la-Chapelle à Constantine, du grand cocktail ou lombadine, à la demoiselle très très câline, qu'à des roussels à trois vitrines, des caravelles et de l'aspirine, t'as des cervelles qui t'enquiquinent, tu démantèles, moi j'endoctrine, et si je recule mon cavalier, tu prends mon pion mais moi t'as à Tours. Si je te laisse faire à Singapour, ça fait rentrer 1000 tonnes d'acier. Truc et ficelle, troc et combine. De Compostelle à Tien Sin, de grands cartels en saccharine, de clientèle en cocaïne. Fais mes usines en Israël, t'as des diesels mais pas de benzine. J'ai de la farine, t'as pas de cheptel, de colonel pour ta ballerine. Tu pousses ton fou, je te prends ton roi. T'as Panama pour faire joujou, touche au papou, je prends l'Ouganda. Truc et ficelle, troc et combine, de Neuchâtel aux Philippines. Fut en flanelle sur Moleskine, de grand hôtel en limousine. Papa Noël en Palestine, t'as de la Javel, j'ai pas de piscine. T'as des rebelles qui se mutinent, un caramel, une carabine. Et si j'avance un peu ma reine, te v'la bloquer sur les deux cases. Un incident près du Caucase, échec et mat à moi l'Yémen. Truc et ficelle, troc et combine. Truc et ficelle, troc et combine. Truc et ficelle, troc et combine.
Voilà, Gilbert Lafaye, truc et ficelle, troc et combine. Les combines, on en a parlé au sujet de la Grèce. On va revenir un petit peu maintenant sur le reste de l'Europe. On disait que l'austérité, ça a l'air de s'imposer comme une nécessité, mais ça a quand même des effets fort négatifs sur les citoyens, finalement, sur la vie des citoyens. Alors, quels seraient finalement les ingrédients d'un remède ou d'un ensemble de remèdes à cette crise? Comment est-ce qu'on pourrait en sortir?
Je crois qu'il y a des remèdes de divers ordres qui sont nécessaires. Un, dans le secteur financier, je l'ai dit tantôt, il faut remettre de l'ordre. Mmh. Et j'espère qu'on va arriver à réguler le secteur financier correctement et que pour cela, les électeurs américains feront le bon choix début novembre. L'autre élément, c'est le dosage que tous les économistes connaissent entre la politique monétaire et la politique budgétaire. J'ai dit tantôt que la Banque Centrale Européenne avait mis 4 ans pour arriver à faire ce que la Banque Centrale Américaine avait décidé de faire en une semaine aux États-Unis en 1992. Bon, là, il y a encore... Bon, on est arrivé 4 ans en retard. Bon, espérons que maintenant, la politique monétaire joue son rôle, parce que si elle joue son rôle, elle contribuera à relancer l'économie, elle rendra la sortie de crise moins douloureuse, et donc l'assainissement sera moins douloureux. Alors, en termes budgétaires, il y a des enjeux importants, qui est quand même la répartition des efforts entre pays. Tout le monde n'a pas besoin d'assainir au même rythme. Il y a des pays dont la situation est plus grave que d'autres. Mais si les pays dont la situation n'est pas grave se dispensent de faire de l'austérité, dont je me demande à quoi elle sert, ils tireront la locomotive. Mmh. Et quand la locomotive tire, c'est quand même plus simple pour les wagons derrière de suivre. En clair, si l'Allemagne et les Pays-Bas, pour ne citer qu'eux, arrêtez de vouloir faire de l'austérité pour être plus catholique que le pape, si je puis dire, et considérez plutôt que leur rôle, c'est de tirer l'économie européenne vers le haut. Ce serait quand même beaucoup plus simple pour ceux qui sont dans des situations budgétaires objectivement fragiles de s'en sortir. Assainir avec une économie qui est en croissance, c'est quand même nettement plus simple qu'assainir avec une économie qui est en récession. Je crois que, bon, les remèdes, ils sont de cet ordre-là. Puis alors après, in fine, il y a le débat à l'intérieur des États. Okay. Il faut rééquilibrer les comptes, on ne peut pas être perpétuellement en déficit. Alors finalement, qui paye? Bon, là,
grande question.
Tout le monde connaît il n'y a qu'à réduire les dépenses et il n'y a qu'à augmenter les impôts. Moi, la lecture d'un citoyen chrétien engagé, ça me semble-t-il que l'assainissement repose sur les épaules les plus solides, mm-hmm, et qu'on évite de charger excessivement les pauvres du poids de l'assainissement budgétaire. On est quand même sur une toile de fond où les inégalités ont augmenté.
Ouais,
enfin, moins en Belgique que dans certains autres pays, mais quand même, les inégalités ont augmenté sur les dernières années. Je ne veux pas dire du tout qu'on va tout résoudre en taxant les très riches. Il y a des situations d'inégalités qui sont scandaleuses. Hein, je ne veux pas dire du tout qu'il faut laisser les très riches en paix. Bon, Il y a des écarts de richesse qui sont éthiquement indéfendables et économiquement injustifiés. Mmh. Et dans ce cas-là, un taux de 75%, c'est un bon remède de cheval économique, je trouve. Mais bon, autant c'est économiquement efficace et éthiquement indéfendable, il ne faut pas croire qu'on va trouver 3 meilleurs amis avec ça. Parce que la particularité des très riches, c'est qu'ils ne sont pas nombreux.
Oui.
Bon, en fait. Mais indépendamment de ça, il y a des enjeux de redistribution qui traversent une bonne partie de la réserve revenue, y compris une classe moyenne relativement aisée. Mmh. On a dépensé en Belgique 2,5 milliards pratiquement à distribuer des avantages fiscaux dont profite toute la classe moyenne supérieure et sur lequel j'ai un regard très critique en termes de nécessité et en termes d'efficacité économique. Par exemple, tous ces panneaux photovoltaïques qui ont fleuri à coups d'incitants fiscaux sur les toits de maisons dont les murs sont des passoires énergétiques.
Ouais, je renvoie d'ailleurs les auditeurs à ce sujet, à une analyse que vous avez écrite l'année dernière, je pense, pour Vivre Ensemble sur notre site. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. On va devoir se quitter. On aurait voulu aussi aborder l'aspect peut-être plus spirituel, plus de questions de sens de cette crise. Peut-être en deux mots, je ne sais pas si vous avez un commentaire.
En deux mots, je crois qu'il y a une crise du sens quelque part, parce que bon, derrière l'envol de la sphère financière, il y a aussi la dictature du rendement à deux chiffres. Et on ne sait pas faire du rendement à deux chiffres sur le capital investi dans les entreprises quand l'économie croît de 2-3%. C'est une impossibilité mathématique. Mm-hmm. Pour faire ce rendement à deux chiffres, il faut payer des trucs. Et les trucs, c'était le gonflement du secteur financier. C'est-à-dire que bon, il y a ça aussi derrière la crise. Il y a une situation très inégale. Et je crois que là-dessus, on doit avoir un regard critique, on ne peut pas continuer. Bon, des inégalités pareilles ne sont pas tolérables. Je crois qu'il faut rechercher des solutions en remettant quelques valeurs au centre.
Voilà, mais on va essayer peut-être d'y revenir dans une prochaine émission parce que malheureusement celle-ci se termine déjà. Un grand merci Christian Valenduc de nous avoir un peu éclairé sur cette difficile problématique et à très bientôt sur RCF.